Vous êtes bien sur la radio fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter donc une émission sur la dette grecque, avec des considérations également sur la dette française. Il s'agit d'une intervention de Patrick Sorin, qui est membre de la Commission pour la vérité sur la dette grecque, du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et du collectif d'audit citoyen. Il s'agit de tirer les enseignements et les perspectives après la publication du rapport d'audit sur la dette grecque.
Bon, mais bonjour à toutes et à tous qui avez fait l'effort de sacrifier votre samedi après-midi pour venir parler de la dette. Alors, cet après-midi, elle va être divisée en deux parties. Une première partie sera consacrée à la question de la dette grecque et à l'audit de cette dette qui a été menée. Et la seconde partie sera, elle, dédiée à la question des dettes locales, des audits qui ont été faits et des actions. La Grèce, actuellement, si je devais la qualifier, je dirais que la Grèce, c'est un pays qui connaît une situation de crise humanitaire et de crise sanitaire. Ça, c'est le premier point. On commence par ça. On commence par ce qui est concret, ce qui touche les gens. Crise humanitaire. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si je prends deux économistes du FMI qui ont étudié 147 crises bancaires entre 1970 et 2011, la Grèce fait partie des 5% des crises les plus graves, à côté de crises style famine, de crises liées à des guerres. Donc vous voyez un petit peu le niveau de délabrement de ce pays. Ça, c'est un point très important. Et j'insisterai donc dans cette présentation sur le rôle essentiel qu'ont joué les banques. Alors, je présente des petits documents. La Grèce, ce petit guide contre les bobards médiatiques, c'est sur la table, c'est en libre accès, donc vous pouvez le prendre. Et ça, c'est une plaquette que j'ai réalisée pour mon syndicat Sud BPCE qui explique ce qu'est une banque, à quoi ça sert. Et cette plaquette, elle a d'abord été destinée aux employés de banque qui ne savent pas comment fonctionne une banque. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça parce qu'ils sont dans leur case. On leur dit « vendez des plans d'épargne logement, ouvrez des co-dévis, délivrez développement durable maintenant, faites des prêts personnels, faites souscrire des assurances ». Mais ils sont dedans, ils ne savent pas ce que représente financièrement leur entreprise, à quoi elle sert globalement, qu'est-ce qu'il y a derrière leurs activités. Donc le but, c'est de leur expliquer tout ça, en quelques pages, avec beaucoup de dessins, pour que ça soit justement compréhensible pour la plupart des gens, parce que les médias nous expliquent pas comment marche le système. Or, c'est compliqué, mais en termes simples, on peut arriver à avoir quelques rudiments qui nous permettent de comprendre et d'agir aussi, surtout ce qui est important, parce qu'une fois qu'on a compris, on a envie d'agir. Et le but, c'est cela. Alors, le travail sur la dette grecque a commencé. Donc, alors, avant de parler de la commission d'audit, je vais quand même donner quelques perspectives, parce que quand on regarde les médias, quand on écoute la radio, tout ça, on dit la Grèce, il y a un problème de la dette publique. Oui, tout à fait, il y a un problème de la dette publique. Mais si on creuse un petit peu, et c'est ce qu'on a fait avec la commission pour la vérité sur la dette grecque qui a travaillé en Grèce, donc je la présenterai tout à l'heure, on s'est aperçu que à la racine, il y a un problème qui met en jeu au premier plan les banques, le monde bancaire. Jusqu'en 1998, en Grèce, le système bancaire était à 70% sous contrôle public. Donc, grosso modo, c'est l'État qui administre tout ça, et ça se passe relativement correctement. De 1998 à 2000, on assiste à une inversion. 65% du système bancaire est sous contrôle privé. Et on a essentiellement quatre grandes banques qui vont émerger et qui vont, je dirais, tenir les affaires au niveau des finances. Le 1er janvier 2001, la Grèce rentre dans la zone euro. Alors je vous rappelle que pour entrer dans la zone euro, il fallait satisfaire un certain nombre de critères, de conditions qu'on appelle les critères de Maastricht, c'est-à-dire ne pas avoir une dette qui dépasse 60% du PIB, ne pas avoir un déficit qui dépasse 3% du PIB et maintenir son inflation dans des ordres relativement bas par rapport à une moyenne d'autres pays. Donc voilà un petit peu les critères qui étaient comme ça. Or, la Grèce était dans une situation plutôt délicate par rapport à ces ratios. Qu'à cela ne tienne, il y a un magicien qui est arrivé avec un joli chapeau pointu avec des étoiles dessus qui s'appelle Goldman Sachs et qui a dit « Je m'occupe de tout. Et Goldman Sachs, il a traficoté les comptes, c'est-à-dire à travers des systèmes compliqués, ce qu'on appelle des swaps, des échanges de taux, il a fait disparaître par magie une partie de la dette, il a un petit peu amélioré le déficit, et c'est parti comme ça. Au passage, Goldman Sachs, il ne ramonne pas pour la suite, comme on dit trivialement, il a ramassé 600 millions d'euros, voilà, tranquillement. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé, un petit peu les histoires. Donc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée de la Grèce dans la zone euro a permis à d'autres pays d'aller faire leur marché sur le dos de la Grèce et de faire quelques bonnes affaires. Et en premier lieu, les banques privées. Et j'ai remarqué qu'il y a deux banques en France, le Crédit Agricole et la Société Générale, qui dans les années 2004 et 2006 sont allées en Grèce, ont acheté des banques locales. Donc le Crédit Agricole a acheté Emporiki. La Société Générale, une de banques qui a été appelée Géniki, donc Générale pour être dans le même ordre d'idée du sigle, et ont commencé à travailler, et à travailler de façon très inconsidérée. Alors pour vous le prouver, je vais vous donner quelques chiffres. Il faut que vous soyez bien assis parce que c'est des chiffres dont on ne parle jamais dans les médias. Et ce sont des chiffres que j'ai trouvés dans les rapports annuels de la Banque de Grèce. Parce qu'on a quand même bien bossé sur le sujet. On a regardé les comptes. Tous les chiffres que l'on avance dans le rapport sont des chiffres qui viennent du FMI, de la Banque Centrale Européenne, du Fonds Européen de Stabilité Financière, de toutes ces structures officielles. Vous voyez, et ce sont des chiffres qui ne peuvent pas être contestés. Il faut savoir qu'entre 1998 et 2008, donc l'équivalent d'une dizaine d'années en Grèce, donc 1998-2008, l'encours des crédits immobiliers a été multiplié par 11. L'encours des crédits à la consommation par 12. L'encours des prêts aux entreprises par 3. Donc ça veut dire quoi? On a un emballement de la sphère de crédit, donc on a une bulle qui se crée, et on le voit parce que ce n'est pas des progressions qui sont rationnelles, qui sont de l'ordre normal et logique, ce mouvement-là. Donc des encours qui font plus que décupler en une dizaine d'années, je dirais, ça doit attirer l'attention. Alors comment ça s'est fait tout ça? Eh bien on a des banques qui voient arriver des gens, qui envoient des pubs en disant aux Grecs, on va vous payer vos vacances, on va vous payer ça, les entreprises, pas de problème, venez, devenez propriétaire, et on balance des prêts. Vous allez me dire, ouais, mais les banques, elles savent que les clients, ils ne pourront pas rembourser. Bien sûr qu'elles le savent, les banques. Ils ne sont pas plus fous, ils savent comme moi, c'est du bon sens. On sait très bien que quand on prête à quelqu'un qui n'a pas d'argent, et on a vu ça aux États-Unis, avec les subprimes, on sait très bien qu'ils ne vont pas rembourser. Ouais, mais alors pourquoi ils ont prêté? Eh bien, parce qu'il y a un petit système qui s'appelle l'aléa moral. C'est-à-dire que les banques, elles spéculent sur le fait que quand elles vont avoir des problèmes, c'est l'État qui va venir les rembourser. Après avoir privatisé les profits pendant des années, eh bien, on va socialiser les pertes, c'est-à-dire on va faire supporter par le contribuable bien les impayés. Voilà, tout simplement. Et donc, les banques, elles ont prêté, elles sont responsables de tout cela. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas vous assommer de tout cela. Mais là aussi, c'est une étude qui a été faite par une économiste de l'OCE, donc Céline Antonin. Voilà. J'ai regardé donc l'évolution des encours de prêts. Alors, il y a deux chiffres qui sont vraiment très intéressants et qui donnent bien une photographie pour expliquer ce qui est en train de se jouer. Si je prends la dette grecque totale, c'est-à-dire la dette privée dont je vous ai parlé, les prêts immobiliers, les prêts à la consommation, les prêts aux entreprises, et que je rajoute la dette publique. On avait un encours total, donc qui était de 430 milliards et demi au troisième trimestre 2009. Donc 430 milliards et demi, donc détenus par les banques. Donc les banques avaient un encours de crédit de 430 milliards et demi. Et si je regarde le deuxième trimestre 2014, cet encours, il est passé à 73,8 milliards. Bizarre ça. Et si je prends le cas des banques européennes, c'est encore plus criant. Les banques européennes, donc essentiellement la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais essentiellement l'Allemagne et la France, avaient 389 milliards d'encours de dette au troisième trimestre 2009. Au deuxième trimestre 2014, elles n'avaient plus que 47 milliards. Donc elles se sont débarrassées de quasiment 340 milliards sur les 390 milliards. Vous voyez donc l'évolution. Si je prends que la dette publique, les banques européennes, elles avaient au dernier trimestre de 2010 60 milliards. Au deuxième trimestre 2014, elles n'ont plus que 2,2 milliards. Alors c'est quoi ce système de polichinelle-là? Bien, les banques privées, elles ont fait des prêts à risque. Et quand les clients que ce soit les clients privés ou le client public, c'est-à-dire l'État grec, n'allait plus être en mesure de le rembourser, eh bien, elles s'en sont débarrassées en refilant cette patate chaude à des institutions publiques, que ce soit le FMI, la Banque Centrale Européenne, le Fonds Européen de Stabilité Financière, c'est-à-dire tout ce qui nous représente, nous. Moi, dans cette présentation, je vais surtout m'intéresser donc à la dette publique, puisque c'est ce qui est l'objet de cette rencontre. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, le contexte. Comment ça part ? On a un contexte qui est une financiarisation, une libéralisation de la situation en Grèce que l'on a connue partout. D'ailleurs, nous, en France, on a connu ça depuis les années 80, 84, l'évolution de la loi bancaire. On a créé la Banque universelle en 1984, qu'on appelait la Banque à tout faire et qu'on peut appeler aussi la Banque à faire n'importe quoi, puisqu'on a regroupé toutes les activités de la banque, c'est-à-dire que l'épargne des ménages peut servir à financer la spéculation. Ça, c'est la loi de 84. Sous un gouvernement de gauche, je précise. Donc ça s'est passé. Il y a une libéralisation complète. On a observé ça au Royaume-Uni aussi, aux États-Unis, avec ce qu'on a appelé les Chicago Boys, qui avaient que le libéralisme en tête. Et on a eu une déréglementation complète. Et en Grèce, on le voit. En France, on a eu un mouvement de nationalisation des banques à 81-82. Et après, à partir de 86, eh bien, on reprivatise tout ça. Avec les réformes Bérégovoy, Strauss-Kahn, donc on privatise les banques, on a des banques privées, avec les résultats que l'on a. Alors je ne dis pas que les banques publiques en France sont toujours bien comportées, mais je dirais elles allaient moins dans la spéculation que ce qu'on a pu observer avec les banques privées. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le problème de la dette grecque est un problème qui est causé par des banques privées qui ont consenti des prêts aux ménages, aux entreprises et à l'État, sans contrôler. Quand vous êtes prêteur, moi, je suis employé de banque et j'ai consenti des prêts. J'ai consenti des prêts à des particuliers et pendant une dizaine d'années, je me suis occupé de collectivités locales. Je prêtais à des communes, à des syndicats intercommunaux, à des hôpitaux, à des départements, des régions, des grosses structures. La première chose qu'on fait, on analyse les comptes de la collectivité. Est-ce que cette collectivité pourra supporter la dette? Pourquoi est fait cet emprunt? À quoi il va servir? Est-ce que la délibération a bien été prise? On vérifie tout cela. C'est la règle de base. Et comme moi, je considère que la banque, elle doit porter le risque, est-ce qu'on doit donner un avis favorable ou non? Si je vois que la collectivité, ça m'est déjà arrivé, dans des collectivités où je savais que le maire était un escroc ou que la collectivité était surendettée, je ne pouvais pas mettre en place un crédit. À partir de là, il y a d'autres systèmes. Quand le maire est un escroc, ça relève de ses autorités de contrôle. Il m'est arrivé de faire convoquer un maire dans une préfecture, mais la préfecture n'a rien fait, rassurez-vous. C'était une démarche un petit peu atypique, mais voilà. Donc nous, on a un travail. Quand on représente la banque, on doit analyser le risque. Ce que n'ont pas fait les banques, elles ont été fautives. Elles ont accordé des prêts à tout va parce qu'elles savaient que derrière, l'État allait venir à leur secours. Et ça a été le cas. On a vu combien ça nous a coûté à la suite de la crise de 2007-2008. On parlera de Dexia tout à l'heure, qui a coûté très très cher au gouvernement français et au gouvernement belge, c'est-à-dire aux contribuables de ces deux pays. Donc voilà. Donc là, on est dans ce système-là. Alors nous, il se trouve que la dette grecque va nous intéresser parce qu'il y a un événement qui s'est passé qui est très intéressant. C'est le 4 avril dernier. La présidente du Parlement grec, Zoé Kostantopoulou, l'ex-présidente, puisqu'elle n'a plus aucun mandat après les dernières élections, a décidé de créer une commission pour la vérité sur la dette. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans le document qui nous a été remis pour nous donner un petit peu notre feuille de route, on devait faire l'audit de la dette, regarder pourquoi cette dette est à ce niveau-là? Quelles sont les raisons qui ont fait que cette dette a gonflé autant? Et est-ce que cette dette a bien été souscrite dans des conditions réglementaires normales? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu des manquements? Et si c'est le cas, quelles pistes de droit pourraient être avancées pour contester cette dette qui serait illégale, illégitime, odieuse ou insoutenable? Je reviendrai sur tout ça. Donc Zoé Kostantopoulou a mis en place une commission. Elle en a confié la coordination scientifique à Eric Toussaint, qui est le porte-parole, le président du comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, donc qui a déjà procédé à l'audit de la dette de l'Équateur en 2007. Donc quelqu'un qui connaît, qui travaille depuis des années sur les questions de dette, c'est un des plus grands spécialistes de la dette. Et Eric a constitué une équipe d'une trentaine de personnes, à savoir une quinzaine de personnes, de personnalités de Grèce, et une quinzaine d'autres personnes venant d'une dizaine de pays, aussi bien de la Zambie, du Brésil, du Royaume-Uni, bon, de France, de Belgique, enfin d'Espagne. Vous voyez, c'était vraiment un panel très large. Et dans cette commission, on retrouvait des économistes, des personnes spécialisées dans les statistiques. On trouvait également des juristes spécialisés dans le droit constitutionnel, dans le droit humain, des personnes qui avaient fait des audits, comme bien sûr Eric et Maria Lucia Fattorelli, qui a travaillé au Brésil, qui était une haute fonctionnaire du Brésil, qui a fait l'audit de la dette du Brésil, qui a travaillé aussi en Équateur. Donc, et puis des représentants du mouvement social. Moi, j'en faisais partie parce que je travaille sur les dettes locales depuis pas mal de temps. J'ai réalisé des audits. J'ai participé à l'audit qu'on a fait au niveau national sur la dette publique de la France. Donc voilà, on s'est retrouvés tout un ensemble et on a travaillé. Et ça a été, je dirais, très intéressant et très instructif. Alors, on a analysé toute la dette en disant, mais voilà, cette dette, pourquoi elle a été souscrite, d'où elle vient et où est-ce que s'est passé tout ça ? Eh bien, on a eu quelques petites surprises, c'est-à-dire on s'est aperçu que plus de 80% de cette dette n'est pas allée à la Grèce. La Grèce a eu ce qu'on appelle, dans les médias, des plans d'aide, qui sont baptisés mémorandum, avec conditionnalité, je reviendrai sur ça, parce que le langage n'est pas neutre. Les plans d'aide à la Grèce, c'est de l'argent qui est déversé sur la Grèce pour les aider. Non, on s'est aperçu que 80% des financements qui ont été mis en place depuis 2010 sont allés directement dans les caisses des banques. Cet argent est allé renflouer les banques. Et parfois, ça n'a même pas transité par la Grèce. Alors je vous dirais qu'on a eu quand même quelques grosses difficultés pour travailler parce qu'il se trouve que le gouverneur de la Banque de Grèce actuelle est un escroc, s'appelle Yanis Tsournaras, qui aurait dû être débarqué par Syriza, mais qui ne l'a pas fait, et qui a refusé de nous donner la moindre information sur les comptes, les contrats, les mouvements de fonds. C'est-à-dire on s'est débrouillé un petit peu à l'arrache par nous-mêmes pour avoir ces informations-là. Donc, vous voyez un petit peu, le travail a été mené dans des conditions difficiles parce que Syriza, à l'époque, et encore actuellement, n'a pas de relais. C'est un nouveau parti qui a été mis en place, mais qui n'avait pas d'intériorité, comme en France, le Parti socialiste ou les Républicains ex-UMP, qui ont déjà accédé à des postes de gouvernement, qui ont des équipes, qui travaillent, etc. Syriza, ce n'était pas ça. Et Syriza a dû faire face à la mise en place d'une politique dans des conditions très difficiles, à la fois une pression extérieure par la Troïka, le FMI, la Communauté européenne et la Banque centrale européenne, et au niveau intérieur, par tous ceux qui traînaient les pieds, à la fois de Nouvelle Démocratie, mais aussi du PASOK, et puis, sans compter, Obodoré, et puis tous ceux qui essayaient de mettre des bâtons dans les roues. Donc ça a été, je dirais, très compliqué à mettre en place. Mais ça s'est fait. Alors, nous, on s'est attaché donc, à regarder tout ça. Donc on a vu, la majorité de cette dette n'a pas profité à la Grèce. Ensuite, les conditions dans lesquelles ça a été mis en place. Légèreté des banques, je les rappelle, qui n'ont pas fait leur travail, d'analyser les contrats, la capacité de remboursement. Ensuite, la Troïka. La Troïka est intervenue d'une façon illégale. Et ça, il y a un rapport de parlementaires européens qui l'a démontré, dont un élu socialiste qui s'appelle Liang Wangnok, qui a travaillé à ce rapport avec un autre parlementaire européen. Ils ont fait un excellent rapport pour dénoncer tout ce qui s'était passé. Donc ça, illégalité. Et il faut savoir que, je vous ai expliqué que pour entrer dans la zone euro, il y a une fraude avec Goldman Sachs. Pour mettre en place les mémorandums, le premier mémorandum, il y a eu lieu en 2010. Il y en a eu un autre, un second en 2012 et un troisième en 2015, là, celui que vient d'accepter Tsipras et son gouvernement. Un mémorandum, c'est quoi ? Un mémorandum, c'est un accord entre la Grèce et la Troïka, FMI, Fonds monétaire international, Banque centrale européenne, Communauté européenne. Ce mémorandum, ça veut dire on vous donne de l'argent, sous-entendu 80% allant aux banques, mais ça, c'est pas dit sur le papier, c'est sur d'autres papiers qu'on ne va pas communiquer. On vous donne de l'argent à condition que vous respectez un certain nombre de conditionnalités qu'on vous impose. C'est très démocratique, ça, non ? Puisque le FMI n'est pas contrôlé, la Banque centrale non plus, elle est indépendante, et la Commission européenne, bon, on sait le souci démocratique qu'elle a. Donc, on impose des conditionnalités. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conditionnalité ? bien, on va diminuer de 25% les pensions pour commencer, hein, pour se mettre en jambes. Après, on va diminuer quelques dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique. Ouais, c'est toujours bien d'avoir moins de fonctionnaires, c'est toujours ça de moins à payer. Le service, on s'en fout, les gamins, l'école, pour ce que ça leur sert. Les jeunes filles, 72% de taux de chômage actuellement. Moins de 26 ans en Grèce, vous êtes une jeune femme. Vous avez moins de 26 ans, à 72%, vous n'avez pas d'emploi. Vous êtes un jeune homme, vous avez moins de 26 ans, 60% de chômeurs. C'est ça la réalité. Et on a dégradé tout ça. Le système de santé, c'est pas utile que les gens se soignent. Ben, s'ils meurent, ben, c'est comme ça, c'est la nature. Voilà. Donc on dégrade les systèmes de santé. Ça, c'est dans les conditionnalités, diminuer les dépenses de santé. Ah, par contre aussi, il va falloir que dans le financement qu'on va vous donner, eh bien, vous en donnez une grosse partie aux banques privées. Ah bon ? Ça veut dire qu'on va aider, deuxième mémorandum de 2012, 48 milliards sont allés directement dans les caisses des banques privées pour aider les actionnaires. Une banque privée, par définition, c'est une banque qui fonctionne avec des actionnaires et l'actionnaire, il touche des dividendes. D'accord ? La règle... En France, comme en Grèce, comme partout, quand vous êtes actionnaire d'une société, vous prenez un risque. Si la société fonctionne mal, vous encaissez rien du tout, voire vous perdez votre mise et votre action va diminuer, vous retrouvez avec des pertes. Si ça marche bien, vous encaissez. Tant que ça a bien marché, les actionnaires, ils ont encaissé, les actionnaires des grandes banques grecques. Mais quand ça a mal marché, ils disent « Ah, mais nous, on va pas payer ». Donc, on a mis en place des financements publics pour aller renflouer les banques privées. Voilà ce qui s'est passé donc en Grèce et ce qui va se repasser encore prochainement. Donc vous voyez un petit peu, on a mis en évidence tous ces éléments-là. Donc le premier mémorandum, eh bien, il a aidé essentiellement le système financier, les banques privées, rachat de prêts, etc. Donc de grosses aides par rapport à ça, dans des conditions qui sont pas très intéressantes. Le deuxième mémorandum, pareil. Et le troisième aussi. Ben le troisième mémorandum, il fait 86 milliards, celui de 2015. 54 milliards vont refinancer d'anciennes dettes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va redonner de l'argent à la Grèce pour qu'ils remboursent les banques. Et ces 56 milliards, ils vont aller directement dans les caisses des banques. Ça évite que les banques ou les institutions internationales soient en défi. Donc, on rembourse. 7 milliards vont payer des arriérés, c'est-à-dire des échéances qui n'ont pas été payées. Déjà, vous avez du mal à trouver ce qui va servir à l'économie grecque là-dedans. Hein. La santé, l'éducation, le développement des entreprises, etc. Il n'y a rien. 7,6 milliards pour reconstruire des réserves. On ne sait pas ce que c'est comme réserve. Est-ce que ce sont des réserves pour aider les banques pour plus tard ? Je pense que c'est plutôt ça, plutôt que des réserves pour aider l'économie. Et 25 milliards pour recapitaliser les banques, ce qui est un puissant fonds après les 48,2 milliards du deuxième mémorandum. Donc là, vous avez la photographie de ce qui se passe. Alors, conditionnalité, je vous donne quelques extraits du mémorandum qui a été accepté par le gouvernement Syriza, là, en 2015. On va continuer à brader le patrimoine. On a créé une société qui s'appelle Taipei, qui a vocation à vendre tout ce qui peut être vendu. Aéroports, ports, terrains, îles, etc. Tout est à vendre. Tout doit disparaître quasiment. Le Parthénon et l'Acropole, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, on vend tout ça et on brade. Là, dernièrement, il y a des aéroports qui ont été achetés aux alentours de 14 millions. Enfin, il y a des chiffres qui sont... Je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a 14 aéroports qui ont été achetés pour des sommes vraiment très, très basses. Et il y a même eu une opposition dans une collectivité pour dire non, si on vend cet aéroport, ça ne nous fait rien gagner. Parce qu'en plus, l'argent, il va directement dans des caisses des banques. Il va refinancer donc, le programme d'allègement de la dette. C'est-à-dire les Grecs ne voient pas passer l'argent et ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc l'argent qu'ils reçoivent de la vente du patrimoine, ils ne le reçoivent même pas. Ils ne peuvent même pas s'en servir. Donc on voit des choses qui sont... pas très clairs. Donc voilà un petit peu tout ça. Alors, autre chose aussi du troisième mémorandum, il y a beaucoup de Grecs qui ne peuvent pas payer leurs échéances d'emprunt immobilier et qui ont de grosses difficultés. Eh bien, il y a une disposition qui est mise en place pour faciliter la saisie par les banques du patrimoine immobilier des personnes qui sont des familles qui sont impayées. Donc ça, c'est dans le troisième mémorandum. Alors, il faut savoir que ce troisième mémorandum, il a été voté dans des conditions un petit peu... pour le moins délicate, puisque quelques centaines de pages ont été votées en une nuit, comme le précédent mémorandum. Donc vous voyez un petit peu déficit démocratique. Alors nous, ce que l'on a fait donc, au niveau du comité pour la vérité sur la dette grecque, la commission pour la vérité, on a utilisé des arguments de droit. On a recueilli tout un ensemble d'éléments et on a essayé de passer ça au crible de quatre types de dettes qui sont des dettes qui posent problème. Ces dettes qui posent problème sont les dettes illégales, illégitimes, odieuses et insoutenables. Alors, ce sont des adjectifs qualificatifs, mais au-delà de ça, ce sont surtout des éléments de droit et de droit international. Parce que la notion de dette illégitime, illégale, odieuse et insoutenable, ça fait référence à une doctrine de droit international qui remonte dans les années 20. Donc il y a une personne qui s'appelle Sack qui a commencé à travailler sur ces notions-là. Et cette notion a prospéré par des juristes, par des économistes et puis par des gens qui se sont battus contre ces dettes-là. Alors je vais en dire quelques mots pour chacune. Une dette illégale, par définition, c'est une dette qui ne respecte pas la réglementation du pays. C'est-à-dire il y a des dettes qui ont été souscrites en Grèce, des dettes publiques, en violation de la Constitution et aussi en violation d'une réglementation européenne ou même de la réglementation des États auxquels appartiennent les banques qui ont consenti ces prêts à la Grèce. Une dette illégitime, pour expliquer les choses relativement simplement, c'est une dette qui ne profite pas à l'ensemble de la collectivité mais qui ne va servir que quelques intérêts privés. Normalement, quand il y a une dette publique, cette dette, elle doit bénéficier à l'ensemble de la collectivité, à l'ensemble de la population. Si je prends le cas du troisième et du second mémorandum avec les 25 milliards et les 48 milliards de recapitalisation, eh bien on se retrouve dans une dette qui va profiter à quelques intérêts privés, quelques actionnaires, et pas à la collectivité. Donc cette dette-là, elle est illégitime, parce qu'un État n'a pas à consacrer sa dette, son financement, pour subventionner des entreprises privées. C'est pas réglementaire tout ça, c'est pas autorisé et c'est pas légitime. Une dette odieuse, la troisième sorte, c'est une dette qui est mise en place par un créancier, alors que ce créancier sait pertinemment que les conditions dans lesquelles cette dette est mise en place violent les droits humains fondamentaux. Et on a fait une étude en Grèce très approfondie de toutes ces violations. Les droits humains fondamentaux, c'est le droit tout d'abord de se nourrir, de se loger, le droit à la santé, le droit à l'éducation, donc vraiment des droits basiques qui sont reconnus par tout un ensemble de conventions, de réglementations. Je dirais que c'est quelque chose qui est très important. Et il y a une violation de tout cela, donc dette odieuse. Et le créancier sait pertinemment qui va violer ces droits-là. Ensuite, il y a une dette que l'on appelle la dette insoutenable. Par définition, une dette insoutenable, ça veut dire que si le pays la paye, il ne peut plus assurer les droits humains fondamentaux. C'est-à-dire que si la Grèce, et ça a été le cas, elle a payé quand le gouvernement Syriza a été mis en place depuis le mois de janvier, ils ont remboursé entre janvier et juillet, de mémoire, environ 7 milliards d'euros d'emprunt, ce qui est énorme par rapport à ce pays qui avait 320 milliards d'encours de dette globalement. Donc ils ont remboursé 7 milliards, mais en échange, ils n'ont rien reçu. C'est-à-dire, la Troïka disait « Mais c'est pas assez, vous faites pas assez d'efforts, vous faites pas assez de coupes dans les retraites, pas assez de coupes dans les salaires, vous licenciez pas assez de gens, vous vendez pas assez votre patrimoine, donc on vous prête pas ». Ça a été le fameux chantage qui a été exercé, la pression qui a été exercée par la Troïka et notamment par la BCE, qui a conduit à la fermeture des banques grecques qui n'avaient plus de liquidités, qui ont dû... Vous l'avez vu, donc plafonner à 60 euros par jour le retrait par personne, sachant que beaucoup de personnes ne pouvaient pas retirer ce montant-là, parce que je vous signale qu'en Grèce, il y a beaucoup de personnes qui vivent avec aux alentours de 300 ou 400 euros par mois. Ça, c'est la réalité qu'a imposée la Troïka, donc par rapport à ça. Alors...
êtes toujours sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 pour l'émission des Périphériques vous parle, et nous allons reprendre l'écoute de l'intervention de Patrick Sorin sur la dette grecque. Patrick Sorin, pour rappel, est membre de la Commission pour la vérité sur la dette grecque, du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et du collectif d'audit citoyen.
Quelques mots des trois fameux mémorandums qui ont été mis en place. En 2010, il y a eu un premier mémorandum de 110 milliards, de 30 milliards apportés par le FMI et 80 milliards apportés par la zone euro. Donc la totalité n'a pas été versée, il y a eu 102 milliards de mémoire qui a été versée, ou 103, pas très loin, donc autour de ces chiffres-là. Là, c'était censé tout résoudre. Hein. Sur le papier, le FMI disait, là, c'est bon, finger in the nose, on va résoudre le problème de la Grèce. Vous écoutez à l'époque, tous les économistes libéraux disaient ça, c'est bon, on va tout résoudre. Sauf que nous, on s'est procuré quelques petits papiers où il y avait marqué confidentiel secret du FMI. On a eu ça par des voies détournées, où le FMI disait, non mais là, ça ne marchera jamais. Hein. Les Grecs, ils vont se retrouver avec un pourcentage de leur dette qui va exploser, ils vont être à 140-150%, ça ne marchera pas. Donc ils disaient une chose et... Ailleurs, il y avait d'autres petites analyses où on montrait qu'on pensait le contraire. Et ça n'a pas marché, puisque en 2012, on a fait donc un second mémorandum, donc de l'ordre de 172,6 milliards, pour être précis. À l'occasion de ce second mémorandum, il y a eu une annulation d'environ 100 milliards de dettes. Alors on a effacé 100 milliards de dettes. Sauf que cette dette, dont les banques privées avaient bien pris soin de s'en épargner, de se débarrasser une grande partie pour pas supporter les pertes, parce qu'il y a eu une perte, c'est-à-dire grosso modo, on a effacé 50% de un peu plus de 200 milliards. C'est-à-dire celui qui avait cette dette-là, il perdait à peu près 50% de ses actifs. Donc les banques privées s'étaient débarrassées très vite d'un cours de dette qu'elles détenaient. Elles n'en ont gardé qu'une infime partie, alors qu'elles avaient convenu, et c'est Jean-Claude Trichet qui l'avait promis donc au FMI, que les banques françaises allaient conserver jusqu'au bout leurs dettes qu'elles avaient de la Grèce et qu'elles n'allaient pas générer un mouvement de spéculation. Bon, ça n'a pas été le cas. Alors, ces pertes, comment on a fait pour les éponger? Eh bien, je vais vous donner deux exemples. En Grèce, comme en France, il y a des caisses de retraite. Eh bien, il a été décidé qu'on allait piocher 14 milliards d'euros dans le fonds d'un fonds de retraite pour éponger une partie de cet effacement de dette. Vous voyez un petit peu, ce sont toujours les mêmes qui ont payé tout ça. Ce qui est encore plus scandaleux, on s'est aperçu qu'il y a des salariés à l'époque de compagnies d'aviation qui avaient été licenciés. Non seulement ils ont été licenciés, mais on leur a payé leurs indemnités de licenciement sous la forme de cette dette qui allait être divisée par deux. Donc ils ont été doublement perdants. Ils ont perdu leur boulot et au moment de retrouver leurs indemnités, ils n'ont eu grosso modo que la moitié de leurs indemnités. Vous voyez un petit peu le système machiavélique de tout cela. Donc, et là, on se retrouve avec ce fameux troisième mémorandum qui ne va rien résoudre. On le sait très bien. Donc voilà. Alors, je vais terminer par là et après, on va engager la question. Dans ce document, nous, on a conclu des choses. On dit, voilà, d'un point de vue du droit, dans la mesure où les contrats de prêt ont été conclus dans les conditions que j'indique, en violation du droit, violation de la Constitution grecque, il n'y a pas eu de débat, il y a des centaines, des milliers de pages qui ont été votées en une nuit, sans discussion. La BCE est allée contre, la BCE qui doit être indépendante, elle est allée contre son indépendance. Le FMI, article 1 du FMI, doit assurer la stabilité de l'emploi et faire en sorte que les pays aient une croissance, stabilité de l'emploi. Les mémorandums prévoyaient la suppression d'emplois et de diviser par deux les salaires et les retraites. Donc le FMI est allé contre ces documents. La BCE a pour vocation d'assurer la stabilité du système financier. Qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? Ils ont fait fermer les banques grecques pour faire en sorte que les Grecs votent oui au référendum alors qu'ils ont voté non à 62%. Donc nous, dans ce document, on dit, voilà, dans ce rapport, la dette grecque, elle est à 90% illégale, illégitime, odieuse et insoutenable, et elle ne doit pas être remboursée. Vous êtes fondé en droit à ne pas rembourser votre dette. Vous pouvez déclarer l'état de nécessité et refuser de rembourser votre dette. Ça, c'est un point très important. Ce n'est pas, je dirais, une position épidermique, subjective, sensible pour rien. Non, c'est du point de vue du droit. Par rapport à tous les éléments juridiques, on a bien pris soin de dire tout ça. Sauf que le gouvernement en place, il a refusé alors que la présidente du Parlement disait il faut faire à la suite de l'audit, il faut arrêter de payer, il faut mettre en place le contrôle des capitaux, il faut que les banques soient mises sous contrôle public. Je rappelle que les banques étaient privées, rappelez-vous tout à l'heure, je disais, elles étaient 70% publiques et puis elles sont devenues à 65% privées. Là, elles sont revenues, comme par hasard, 65% publiques. Pourquoi ? Parce que l'État réinjecte sans arrêt de l'argent à travers ce qui s'appelle le Fonds hellénique de stabilité financière. Par contre, si les banques, elles sont à plus de 60 ou 65% publiques, l'État n'a plus de droit de vote, puisque la Troïka a dit non, les banques, elles doivent toujours rester sous contrôle privé. C'est-à-dire, c'est les actionnaires minoritaires qui décident, qui empochent les dividendes. L'État, vous, vous apportez le fric et vous vous écrasez, vous n'avez pas droit au chapitre. Voilà un petit peu la photographie donc, de cet État. De choses. Alors, bon, là, je vais plutôt maintenant laisser la place au débat. Donc, on a une quarantaine de minutes pour discuter.
Oui, je voulais faire une remarque par rapport à ce que j'ai entendu là. Je disais que je venais en partie parce que je suis nul en économie, et donc je suis intéressé par comprendre les mécanismes qui sortent de la vulgate libérale. Mais. Je fais partie d'une association qui s'appelle ACRIMED, Action Critique des Médias, et quand on écoute le PPA, c'est-à-dire le Parti de la Presse et de l'Argent, c'est-à-dire qui est détenu essentiellement, vous avez peut-être entendu parler de ça aujourd'hui, par Arnaud, Bolloré, Draghi, Berger et Niels qui détiennent Le Monde, etc., eux, ils ont une expertise. Leur expertise à propos de la dette, c'est quoi ? Leur expertise, c'est de comparer les dettes des pays au bon père de famille qui gère la dette de la famille, comme si c'était comparable. Je sens bien qu'il y a Anguille Souroche, bien que je sois nul en économie. Donc c'est pour ça que je suis assez intéressé d'écouter ce qui est dit. Mais là où je me sens dépité, c'est que si je dois essayer de comprendre ça, je pense que je peux comprendre, mais essayer de le transmettre, de le traduire, pour mobiliser les gens d'un point de vue citoyen, tel à propos de la cité grecque dont tu parlais tout à l'heure, où chaque citoyen, il aurait juste 7 heures à consacrer. Mais si on doit faire tout ça, d'abord, c'est pas 7 heures. Et puis, en plus, je sens que les gens vont être découragés. Donc, moi, je pense qu'il y a un préalable. Il y a un préalable d'ordre politique, fondamentalement politique, à faire, qui est de dire que pour pouvoir entendre que tous ces arguments-là soient audibles et ne nous fassent pas baisser les bras avant même de nous y mettre, il faudrait quand même commencer par interpeller, trouver le moyen d'interpeller d'une manière simple. Le PPA, quoi.
Il y a très peu de temps que j'ai compris que avant je comprenais que quand on prenait un crédit à la banque puisait dans ses coffres et me prêtait l'argent qu'elle avait déjà avant. Et j'ai compris, et ça fait très peu de temps, j'étais assez stupéfait de m'apercevoir que quand j'allais demander un crédit à la banque n'avait pas l'argent, elle l'empruntait à l'échelon supérieur qui elle-même ne l'avait pas, qui le fabriquait pour moi. C'est ça ? Et donc la question que je pose, c'est que pourquoi, puisqu'on a besoin d'argent, d'une quantité d'argent pour que les gens puissent rembourser leurs dettes, pourquoi ne continuons-nous pas, en tout cas ceux qui doivent faire les billets, à continuer à en imprimer ? Est-ce qu'on a peur d'une inflation ou de choses comme ça ? Et voilà. Et la question subsidiaire, pourquoi les États ne récupèrent pas le droit régalien de retirer la monnaie, de refaire le papier monnaie.
Vous avez posé des questions qui couvrent tout un ensemble de choses essentielles de l'économie, notamment la création monétaire, la création de l'argent, les banques. Bon, je vais essayer de dire quelques mots, parce que chacun de ces sujets nécessiterait beaucoup de temps. Mais je vais essayer d'expliquer tout ça. Alors, en reprenant les questions, l'économie de la Grèce, effectivement, la Grèce, c'est une économie qui est très dépendante des pays extérieurs, et notamment des autres pays européens, puisque, la Grèce, une, L'essentiel, c'est le tourisme et puis des micro-économies à côté. Et la Grèce a besoin d'importer. Ça veut dire tout simplement que la Grèce doit se doter d'un nouveau modèle économique qui la rende autosuffisante. Et je crois savoir que ça fait partie des missions de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne, si je me rappelle bien, a une mission émancipatrice de développement social, économique, culturel, et que sais-je encore, aurait dû mettre en place depuis pas mal de temps. Je rappelle que la Grèce est dans la zone euro depuis 2001, 1er janvier 2001. Depuis cette période-là, il y a une quinzaine d'années qui a passé. Qu'ont fait les responsables de la zone euro, notamment au niveau économique, pour assurer une transition vers, je dirais, l'indépendance de la Grèce d'un point de vue économique? Rien du tout. Au contraire, ils ont laissé la Grèce en train de se faire piller allègrement par les puissances privées internes, parce qu'il y a aussi tout un ensemble d'intérêts grecs qui pillent le pays, et d'intérêts extérieurs, notamment allemands et français. Donc, effectivement, la Grèce, moi, je pense, cette situation-là ne l'obligeait pas à accepter le mémorandum. C'est-à-dire que la question qui se pose, et là, moi, je vais être objectif et très modeste, et moi, je n'ai pas réponse à tout, et je ne peux pas prédire l'avenir, ni dire que si en refusant le mémorandum, ça va être mieux qu'en l'acceptant. Je vais vous donner un exemple qui vaut ce qu'il vaut, qui est assez éloigné, mais qui, au niveau d'état d'esprit, démontre les choses. Moi, je suis syndicaliste, et il se trouve que ponctuellement... un des moyens d'action auxquels on a recours, c'est la grève. Quand vous décidez d'une grève, vous ne savez pas si vous avez gagné. Vous ne savez pas si votre combat va aboutir, si vous allez avoir l'amélioration des conditions de travail que vous réclamez, une augmentation de salaire. Mais vous faites cette grève parce que vous pensez qu'elle est juste, parce qu'elle est nécessaire et que vous avez épuisé tous les autres moyens. Je pense que la Grèce, c'est un petit peu ça. Ils auraient dû faire la grève des paiements. En plus, ils étaient fondés, puisqu'on s'est aperçu en quelques mois qu'il y avait tout un ensemble d'éléments du droit international, de l'ONU, des conventions des droits de l'homme, etc., qu'ils auraient pu utiliser pour, justement, dénoncer cette dette et refuser de payer. Et à partir de là, et je réponds à votre question, quels sont les recours? Plutôt que d'aller devant les tribunaux, parce que là aussi, quand il y a un litige sur la dette grecque, où ça se décide? Ça se décide pas en Grèce, ça se décide... au Royaume-Uni, en Angleterre. Pourquoi? Parce que quand il y a eu les mémorandums, la fameuse Troïka, Fonds monétaire international, Commission européenne et Banque centrale européenne, sous la pression des banques privées, ont dit « si un litige sur les emprunts, ça va se résoudre au niveau du Royaume-Uni ». Pourquoi? Ben parce que la réglementation là-bas, elle est beaucoup plus sympa pour les banques, pour les institutions financières. Donc c'est plus en Grèce. Vous voyez un petit peu? Donc ce qu'aurait dû faire la Grèce, c'est ne pas attaquer, mais se faire attaquer. Et on verra, c'est la même chose pour les collectivités locales en France et les hôpitaux qui sont impactés par les emprunts toxiques. En refusant de payer, vous vous faites attaquer. Et à partir de là, ben vous faites demander un appui de la population pour vous soutenir dans le combat. Un appui international, actuellement, ce que réclame la Grèce depuis des mois, c'est la mise en place d'une conférence sur les dettes. Eh bien, le fait de refuser le paiement, ça aurait pu être un élément déclencheur pour mettre en place une commission, d'abord au niveau européen, puis international, sur la question de la dette. Ça, c'est un point très important. Alors, ensuite, au niveau de la création de la monnaie, la création monétaire, là, je ne suis pas spécialiste de tout, mais comment ça peut fonctionner? Effectivement, les banques créent de la monnaie. Vous avez une banque centrale, la Banque centrale européenne, qui refinance toutes les banques privées. Pas cher. Actuellement, ça doit tourner aux alentours de 0,25%. Aux États-Unis, c'est quasiment du même ordre. Donc les banques centrales, la Banque fédérale américaine, la Banque centrale européenne, prêtent aux banques privées à des taux, je dirais, très très faibles. Or, ces banques privées, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous reprêtent à vous. C'est-à-dire, elle vous reprête, quand vous faites un crédit voiture ou autre, elle le reprête en mettant une marge significative. Et quand la Grèce était dans la panade, les banques privées qui se refinançaient à 0,25% allaient prêter à plus de 7% à la Grèce. Donc vous voyez un petit peu, c'était la culbute, en sachant qu'il n'y avait pas de risque, puisque on a vu dans le mécanisme, il y avait les institutions et les États qui allaient refinancer si jamais la Grèce se cassait la figure. Vous voyez un petit peu ce mécanisme-là. Donc effectivement, les banques, elles créent de la monnaie. La monnaie papier ne représente, je dirais, que quelques pourcents de toute la monnaie qui circule, qui est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, qui est créée par des jeux d'écriture, des virements, ce genre de choses. Et actuellement, on s'aperçoit que Vous avez entendu parler de ce mot qui s'appelle « quantitative easing ». Ça veut dire que les banques centrales déversent des grandes quantités d'argent. Le fameux plan de Mario Draghi qui prévoit de verser plus de 1 000 milliards en quelques mois, en 18 mois, dans la zone euro, pour relancer l'économie. C'est-à-dire, ça c'est la fin. On dit voilà, on va balancer les milliards, les banques elles vont prêter à des entreprises et sociétés, ça va créer de l'emploi, ça va faire de la relance. Qu'est-ce qu'elles font les banques? Elles prêtent pas. Elles essayent de trouver des placements plus spéculatifs les uns que les autres. Et j'écoutais il y a quelques jours un spécialiste, un gestionnaire de fonds, d'actifs financiers dans des grandes sociétés de fonds de placement qui s'arrachait les cheveux parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Il y a tellement d'argent, et l'argent veut être placé, les gens veulent le placer, mais pas pour développer l'économie, pour financer des projets. Un exemple très simple. Moi, je suis employé de Caisse d'épargne et je m'intéresse de près aux collectivités locales, dont on parlera tout à l'heure. La Caisse d'épargne refuse de prêter plus que les remboursements, l'encours de dette qu'elle a sur les collectivités locales. Je vous donne un exemple. Chaque année, je vous donne un exemple bon, qui n'est peut-être pas la réalité, chaque année, les collectivités locales remboursent à la Caisse d'épargne, imaginons, 1,5 milliard de capital au titre des échéances. Vous remboursez une part de capital, une part d'intérêt. Eh bien, la Caisse d'épargne, quand elle encaisse 1,5 milliard, elle ne va reprêter que 1,5 milliard. Même si les collectivités ont une demande qui est supérieure, ce qui est le cas. Ce qui fait que c'est la Caisse des dépôts et consignations qui a été obligée de venir faire des rallonges pour les collectivités ben, qui n'arrivaient plus à trouver de l'argent. Pendant des années, les banques privées ont endetté les collectivités locales avec des emprunts toxiques. Là, je peux vous dire, ça y allait à fond. Par contre, une fois que les emprunts toxiques ont produit leurs effets, les banques privées ont fait supporter à l'État la charge de ce risque-là et aux contribuables locaux et nationaux, on le verra tout à l'heure. Et dans le même temps, elles ont arrêté de les robiner. Elles ont dit non, finalement, on ne prête plus, on va essayer de trouver des placements spéculatifs. Donc on s'aperçoit qu'il y a un élément essentiel. La monnaie, l'épargne, le crédit et ce qu'on appelle l'intégrité des systèmes de paiement, c'est-à-dire le fait que tout fonctionne bien au niveau des virements, au niveau des chèques, au niveau des cartes, tout ça... Ce sont des biens d'intérêt général. Et ça, c'est facile de le comprendre. Ça doit être protégé. Quand vous avez votre épargne, vous cotisez chaque année pour votre retraite, pour votre assurance maladie, pour tout un ensemble de choses, eh bien, ça doit être protégé. Ça ne doit pas être mis entre les mains d'intérêts spéculatifs qui vont jouer toutes ces économies, ces sommes mises de côté en bourse. Non. Eh bien, il faut changer tout ça. C'est-à-dire qu'il faut que le système bancaire soit un service public. Pourquoi ? Parce que l'épargne, le crédit, eh bien, si c'est un service public, et il y a besoin d'argent pour construire des écoles, pour construire des locaux pour des entreprises, eh bien, le service public va le faire, va le financer, ça. Il faut que ça soit comme ça. Et ça l'a déjà été. J'ai donné les deux exemples tout à l'heure, à la Libération en 1946, mise en application du programme des jours heureux de la Résistance, il était prévu, nationaliser les grandes banques. On a nationalisé la Banque de France, les grandes banques. On a nationalisé les compagnies de transport, le train, l'aviation. On a nationalisé les centres énergétiques parce que c'était stratégique, le charbonnage. On a nationalisé Renault parce qu'ils avaient trahi pendant la guerre, ils avaient soutenu les Allemands. Vous voyez, ça a été mis en place. Et ce n'était pas que des gauchistes. Il y avait le PC, il y avait des syndicalistes, mais ça allait jusqu'au mouvement de droite avec le général de Gaulle. Donc vous voyez, c'était ça. 81, 82, donc la gauche qui arrive au pouvoir avec le programme commun, on nationalise les banques. Voilà, et ça marchait relativement correctement. Il y a eu l'épisode du Crédit Lyonnais, mais là on peut revenir dessus, parce que nationaliser les banques, ça ne veut pas dire en faire un outil bureaucratique. Mon syndicat, et j'en parle dans la fameuse plaquette là, qui est à votre disposition sur la table, on préconise, nous, un système bancaire socialisé dans l'intégralité. C'est-à-dire, c'est un service public qui est contrôlé à la fois par des représentants des salariés, par des représentants des clients, par des représentants des élus, des collectivités territoriales, et avec des membres qui sont désignés de façon démocratiquement, au vu de leurs compétences et pas au vu des copinages qu'ils ont avec les partis politiques ou les affairistes, quels qu'ils soient. Je cite ici François Pérol, qui est le copain de Sarkozy, qui a été bombardé à la tête de BPCE, alors que quand il était chez Sarko, quand Sarko était président de la République, il a construit le programme de rapprochement des caisses d'épargne et des banques populaires, et il n'aurait pas dû prendre la tête, parce que ça s'appelle une prise illégale d'intérêt. Et c'est pour ça que mon syndicat a fait un procès à Pérol, même si on a perdu, donc au bout de 6 ans de procès, on a perdu en première instance devant le tribunal correctionnel, mais la procureure de la République a fait appel. Contre ça. Et nous, on s'est joint, partie civile, de cet appel. Donc, vous voyez, l'affaire continue par rapport à ça. Donc, le système bancaire doit être mis sous contrôle. Et le cas de la Grèce, il nous montre ça, c'est un cas d'école typique. Il nous montre que la dette, il faut faire l'audit, et quand elle est illégale, illégitime, odieuse et insoutenable, il faut refuser de la payer. Elle nous montre, le cas de la Grèce, qu'il faut, plutôt que de mettre de l'argent dans les banques privées qui sont des puits sans fin, et de ruiner les contribuables avec ça, il faut en prendre le contrôle, les exproprier pour l'euro symbolique, tout simplement. Je vais citer ici Frédéric Lordon, que vous connaissez peut-être. Lui, il parle d'une déprivatisation punitive des banques. Il tape sur la table. Il voulait renverser la table il y a quelque temps. Donc là, et c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Il faut arrêter de financer donc, des intérêts privés. Alors ensuite, donc, bon, j'ai fait le point un peu sur la création monétaire. Pour répondre à la question sur la dette publique de la France, donc on a fait une étude de la dette où, grosso modo, la dette du pays représente 2000 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB. Donc on est déjà au-delà des critères de Maastricht. Donc voilà. Et chaque année, on rembourse, alors là j'ai les chiffres de 2011, 173 milliards, dont 56 milliards d'intérêts et 123 milliards de capital. Alors, c'est intéressant parce qu'on a fait une étude, justement, quand on a fait l'audit de la dette publique de la France, les fameux 2000 milliards, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait 1100 milliards qui étaient une dette illégitime. Alors, illégitime à deux titres. Parce qu'une partie de cette dette, 488 milliards d'euros, correspond au comblement de cadeaux fiscaux. Un exemple, le taux d'impôt sur les sociétés en 1985 était de l'ordre de 50%. Et à l'époque, les sociétés fondaient pas le plomb. Ça marchait correctement. Les patrons ne pleuraient pas. Ils pouvaient aller au sport d'hiver. Ils pouvaient changer leur Audi pour prendre le modèle supérieur. Bon, tout en ayant une résidence secondaire à la mer. Donc pas de problème pour eux. Aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés est de 33%. Si vous calculez le total des niches fiscales, les cadeaux, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est Gilles Carrez, qui est un député ex-UMP, qui doit être maintenant républicain, que sais-je, ou autre chose. Donc... Ils ont montré que ces niches fiscales, qui sont des cadeaux fiscaux, ne rapportent rien du tout au pays. Ça a pourri. Donc, quand vous encaissez moins d'impôts, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut emprunter davantage. Parce que ce qui est dit dans le discours classique, « Ah ouais, mais les dépenses sociales, ça a bondi, etc. » C'est faux. Les dépenses sociales, on l'a montré, elles sont restées stables au niveau de la dette de la France. Donc, ce qui a posé problème, c'est les 488 milliards de cadeaux fiscaux. Ensuite, on a 589 milliards. Vous voyez, c'est précis. Qui correspond donc des intérêts usuraires qui ont été payés par les banques. Nous, on a fait le calcul, donc avec surtout Michel Husson, qui a fait ce calcul-là, qui a montré que sur les 30 dernières années, si on avait prêté à l'État français à un taux d'intérêt normal de l'ordre de 2%, en moyenne, on aurait eu à payer 589 milliards de moins que ce qui est payé aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il se trouve que les banques privées qui ont emprunté, je le disais tout à l'heure, à 0,25, eh bien, elles prêtent avec un intérêt très fort aux États, y compris à la France. Donc ça, c'est un gros problème parce que dans le traité de Maastricht, la Banque centrale européenne n'a pas le droit de prêter directement aux États. On fait un petit tour en passant par le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, BNP Paribas, Société Générale, et au passage, gling, ça tombe. Voyez un petit peu, nous, ce qu'on réclame, c'est que les banques centrales soient autorisées à prêter directement aux États à des taux qui soient même inférieurs à 2%. Dans la mesure où l'État, c'est lui qui va prêter pour financer ses investissements à travers la banque centrale, ça peut être une banque centrale européenne ou une banque centrale nationale, pourquoi l'État se facturerait des intérêts? Bon, on peut facturer des intérêts symboliques pour les coûts de fabrication, etc., le traitement, mais ça ne doit jamais dépasser les 0,25 ou les 0,5%, tout simplement. Donc l'État devrait prêter quasiment à prix coûtant aux structures publiques. Or là, la Banque centrale devrait prêter à prix coûtant à l'État et à ses dépendants, c'est-à-dire les hôpitaux publics, les collectivités territoriales, régions qui sont en charge du développement économique, les départements, les communes, les syndicats intercommunaux, toutes ces structures publiques qui assurent des missions d'intérêt général devraient se financer non pas au taux du marché des banques, mais à un taux qui soit celui de la Banque centrale. Donc vous voyez la logique, c'est que l'État, il faut que l'État, enfin le pouvoir public, et nous, derrière l'État, c'est nous, il faut qu'on se réapproprie le contrôle de la création monétaire et de l'usage de la monnaie. Il faut qu'on se réapproprie le contrôle de l'épargne et du crédit. Et une fois que vous avez tous ces moyens, vous n'êtes pas dans la situation de la Grèce actuellement. Parce que la Grèce est dans cette situation-là, parce qu'elle ne maîtrise pas sa création monétaire. On l'a vu, la Banque Centrale Européenne l'a étranglée. Les banques grecques ont été obligées de fermer parce qu'elles n'avaient plus de liquidités. En même temps que les caisses grecques se vidaient avec les fameux milliards qui partaient des épargnants qui retiraient surtout des riches familles, hein, parce que ce n'est pas les smicards ou les SDF de Grèce qui retiraient leur argent, ils n'en ont pas. Donc ces riches familles qui retiraient leur argent, qui allaient remplir les caisses capitonnées des banques en Suisse, en France et en Allemagne, eh bien dans ce même temps, la Grèce versait également 7 milliards, remboursait 7 milliards. Donc voyez un petit peu tout ça. Donc il faut que les États se réapproprient, le contrôle de leur création monétaire. Et c'est pour ça que, pour faire ça, il faut se réapproprier les banques. Il faut que les banques redeviennent ce qu'elles doivent être, parce qu'elles ont été un petit peu de temps, malheureusement, dans notre histoire, trop peu de temps, un véritable service public. Donc et à partir de là, on se donne les moyens de faire sa politique. Parce que là, vous avez un État qui n'a plus les moyens de faire sa politique. Qu'est-ce qu'on lui dit ? Ah, vous voulez financer des soins ? Ben, vendez votre île, là, à tel endroit. Ben, vous voulez tel truc ? Ben, doublez la TVA. Donc, vous voulez financer ? Ben, faites payer les malades. Après tout, actuellement, il est question de faire payer 5 euros, y compris les gens qui n'ont pas de sous, au moins minimum, pour se faire soigner. Je peux vous dire, ça fait quand même un peu du ramdam en Grèce, tout ça. Donc voilà, les écoles, ben, vous ne les chauffez pas. Les gamins, ben, ils ont qu'à taper dans les mains quand ils ont froid, quoi. C'est comme ça. En Grèce, il n'y a pas de chauffage. Ils mangent pas assez, les gamins. C'est pas grave. Malnutrition. Vous regardez, là, je ne vous fais pas la liste. L'évolution du taux de mortalité infantile, qui bouge malgré tout, les gens qui ne se nourrissent pas, qui ne se soignent pas, le développement du taux de suicide, le développement de la toxicomanie, on va dans ces éléments-là. Moi, je fais référence à un rapport qui a été fait dernièrement par des médecins, qui a été publié par The Lancet, une grande revue médicale, qui ont fait un état de sanitaire de la Grèce, mais qui est catastrophique. Je le disais tout à l'heure, les économistes du FMI l'ont fait également. Donc à partir de là, on est justifié de ne plus payer sa dette et de se réapproprier dans son système financier. Donc.
Vous venez d'écouter Patrick Sorin à propos de l'analyse de l'historique et de l'actualité de la dette grecque à la lumière du dernier rapport d'audit de cette même dette. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM. Ainsi s'achève cette émission des Périphériques que vous parle. Nous nous retrouvons le troisième mardi du mois prochain pour une nouvelle émission consacrée aux mécanismes naturels face au réchauffement climatique à l'approche, justement, de la fameuse COP21. Nous recevrons à cette occasion Jean-Luc Ménard, écologue, expert profane des questions écologiques.